Merci Alain pour cette présentation. Merci à tout le monde d'être venu participer à ce qui s'annonce déjà comme un grand moment pour la pensée africaine, pour la littérature et puis pour la France. Merci donc Alain de représenter, comme on dit. Il n'est guère à notre connaissance d'œuvres littéraires de qualité inspirées par l'Afrique noire et écrites en langue française. C'est ce que déclarait Eza Botto, alias Mongo Betty, dans Présence africaine en 1955. Il dressait ensuite un bilan particulièrement navrant, ne faisant confiance à personne pour produire des chefs-d'œuvre, et désavouant tour à tour les journalistes, les intellectuels, les hommes politiques, les économistes et même les poètes. Les seuls dont on pourrait attendre quelque chose seraient, pour l'écrivain camerounais, les romanciers. Mais ce sont aussi, selon lui, ceux qui déçoivent le plus. Pourquoi ? Parce qu'ils sont tous, ou presque, coupables d'une sorte de trahison des clercs, en choisissant de répondre aux attentes du pittoresque plutôt que de pratiquer une littérature réaliste et engagée. Ainsi, pour Mongo Betty, l'Afrique noire n'est représentée en 1955 que par une sous-littérature qu'il nomme littérature rose. Afrique noire, littérature rose, c'est le titre de sa chronique. Et puis, de toute façon, ajoute-t-il, à quoi sert qu'un chef-d'œuvre soit écrit ou publié en 1955 s'il ne sera lu, connu par le public qu'en l'an 2000. Mongo Betty était loin de se douter en 1955 que le millénium apporterait une toute autre situation, que les années 50 ouvriraient ce qu'on a appelé l'ère du roman africain, que les textes de Ferdinand Oyono, Samben Ousmane, Yambo Wologem, Cheikh Amidou Kane s'imposeraient comme des classiques, que des critiques, justement, poseraient la question « Qu'est-ce qu'un classique africain ? » Que l'on parlerait de champ littéraire africain, que des thèses seraient consacrées à cette littérature, que des chaires seraient octroyées en Amérique, en Afrique, en Asie, en Europe et ici, au collège, à la littérature africaine. Cela dit, la question de Mongo Betty demeure pertinente puisqu'elle renvoie une préoccupation qui a traversé les siècles et les traditions littéraires. Celle du pouvoir de la littérature. Dans ce qui suit, j'en releverai les modalités dans le contexte particulier de l'Afrique et de ses fictions contemporaines. Pour commencer, donc, la fiction africaine a largement contribué à la reconstruction d'une archive. On se souvient que le philosophe congolais Valentin Moudimbe avait parlé de bibliothèque coloniale pour désigner l'ensemble des savoirs qui ont contribué à ce qu'il appelait une invention de l'Afrique. C'est ce qui correspondrait au répertoire orientaliste d'Edouard Saïd. Lors de sa leçon inaugurale, notre hôte Alain Mabankou en a largement rendu compte. Il faudrait peut-être alors parler d'une contre-archive, puisque le contre a été une des modalités des écritures postcoloniales, dont un des premiers essais critiques s'intitulait en anglais « The Empire Writes Back ». Je ne sais pas s'il a été traduit, mais on pourrait dire « l'Empire contre-écrit, ou mieux, l'Empire riposte par l'écriture. Effectivement, une des urgences de la littérature africaine a été de régler ses comptes avec la bibliothèque coloniale. C'est bien ce que l'on entend encore dans le contre de Meursault contre-enquête de Kamel Daoud, tout récemment. Le pouvoir de la littérature a donc été de montrer un autre versant, celui d'une Afrique qui pense et qui se pense. Au-delà du repoussoir ou du contrepoint, les écrivains se sont investis dans un travail plus ou moins systématique, notamment sur la mémoire. Je pense ici au texte de Bessora sur la Vénus au Tanto, de Thierno Monenembo sur les tirailleurs, d'Emeniali, de Boubacar Boris Diop et bien d'autres. Penser l'Afrique, ce sera pour beaucoup tenter de mettre en mots les désastres africains. En ce sens, le projet « Écrire par devoir de mémoire » en 1998, de Nokinje Danoum, est exemplaire, puisque 4 ans après le génocide, il se donnait comme un véritable défi d'écriture, à un moment où, précisément, la fiction semblait la dernière chose à faire. Comment dire le traumatisme, le chaos, les impasses ? Là encore, la question est universelle. Mais de Véronique Tadjo à Abdourahman Waberi, ils ont relevé le défi d'y répondre en ce qui concerne le Rwanda. En postcolonie aussi, donc, c'est la littérature qui permet d'imaginer, comme chez Laboutancy, Sonny Laboutancy, des résistances, des voix impossibles à réduire au silence, des morts difficiles à tuer, des rebelles. Renonçant à la tentation d'un afro-pessimisme absolu, c'est un pouvoir minime mais précieux que l'écriture revendique, celui de disqualifier les États honteux, pour reprendre Sonny Laboutancy. En cela, le roman de la dictature aura très certainement été le contraire de la littérature rose. Une deuxième et immense fonction de la littérature concerne la représentation de l'espace. Pour le dire plus précisément, et dans des termes empruntés à Michel de Certeau, je pense à la représentation de l'espace en tant que lieu pratiqué, c'est son expression. Au fil des décennies, des récits, des genres variés ont contribué à énoncer des univers historicisés, non pas hors du temps, à représenter des quotidiens incarnés par des personnages dotés de paroles, de mobilité, d'emploi du temps, de vices et de vertus, de certitudes et de dilemmes, de raisons et d'émotions, de capacités ludiques aussi, et aussi de corps. En ce sens, la fiction des Afriques rend le continent habité et habitable. Ceci depuis le roman de Kuruma, Aminata Sofal, et plus près de nous, celle des Florent Kouaouzoti, Kossi Efoui et Samy Tchak. On notera que ce n'est pas le privilège de la littérature dite « haute ». Du Gabon, du Sénégal, du Congo, de France, du Mali, une profusion de polars africains a donné une épaisseur particulière aux marges, aux frivoles, au-dessous des métropoles postcoloniales, tout en travaillant le vernaculaire. Je pense par exemple aux romans d'Achim Goy, d'Abbas Ndion, de Bolia, de Moussa Kounaté, de Mongobetti lui-même. Et d'ailleurs, Simon Djami en avait été le grand pionnier, comme dans d'autres domaines. Il aurait fallu peut-être parler des romans africains, des romans harlequins à l'africaine, qui se vendaient comme des petits pains dans les années 90, histoire de revendiquer une littérature tout à fait rose pour l'Afrique noire. Mais ceci est une autre histoire. Mon troisième et dernier point concerne un public particulier qui brise la polarité entre d'un côté le lectorat africain et de l'autre le lectorat occidental. Il existe aujourd'hui des lecteurs qu'on pourrait appeler les lecteurs de la diaspora, comme on dirait auteurs de la diaspora. Pour les afro-descendants, les afropolitains, les afropéens et autres rejetons de l'Empire, la littérature aussi fait penser l'Afrique de manière toute particulière. Il me semble que pour ces Noirs de France qui n'ont jamais mis les pieds en Afrique, ou dont le lien avec le pays de certains de leurs ancêtres s'est perdu pour tout un tas de raisons possibles, la littérature donne accès à l'Afrique. Je dirais même que pour ces chercheurs d'Afrique, pour reprendre le titre d'un roman d'Henri Lopez, ce n'est pas seulement que la fiction imagine le lieu, c'est véritablement qu'elle tient lieu d'origine, elle ravive la filiation, elle pourrait même tenir lieu de retour, là où les retours physiques sont impossibles. Et d'ailleurs, le rôle de la littérature de jeunesse, souvent absente de nos corpus, est ici crucial pour la manière dont elle invite différentes générations à repenser l'Afrique. Qui dit bébé, entre autres, en sait quelque chose. Dans « Pourquoi la fiction ?», Jean-Marie Schaeffer l'explique avec éloquence. Je cite « La fiction nous donne la possibilité de continuer à enrichir, à remodeler, à réadapter tout au long de notre existence le socle cognitif et affectif originaire grâce auquel nous avons accédé à notre identité personnelle et à notre être au monde. » Si Samba Diallo, le protagoniste de l'aventure ambiguë, est pour certains d'entre nous inoubliable, ce n'est pas uniquement parce que le roman de Cheikh Hamidou Ken est un chef-d'œuvre. C'est aussi parce que tous ces tiraillements résonnent encore dans les aventures ambiguës du XXIe siècle. Et pour finir, un dernier mot sur la critique. On a souvent l'impression à voir comment ils sont représentés dans la fiction, ou à ce qu'en disent les écrivains eux-mêmes, que ceux qui se chargent de disséminer et d'enseigner les littératures africaines sont aujourd'hui engagés dans des pratiques au mieux stériles, au pire complètement dépassées. Les critiques y apparaissent souvent sous les traits de commentateurs bornés, déterminés à étiqueter les artistes, à catégoriser les identités, à forcer les expériences singulières dans des orthodoxies, bref, à contrôler le sens de manière policière. À ces caricatures, je voudrais opposer la tâche, plus généreuse bien sûr, du critique littéraire impliqué dans la démarche qui nous intéresse tous, qui est de penser l'Afrique et de voir là où et comment l'Afrique pense. L'universitaire, les critiques littéraires, les professeurs ne sont pas là, du moins a priori, pour imposer un sens au texte, mais plutôt dans l'idéal pour en signaler des sens possibles et productifs. Avec les auteurs et non pas contre eux, ils participent à un entendement de l'Afrique d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Ainsi, j'espère vous en avoir convaincu dans ce bref exposé, la littérature africaine et ceux qui s'en préoccupent ont répondu de manière spectaculaire, positive et prometteuse à la question « L'Afrique pense-t-elle ?» Merci.
Merci Lydie Moudi-Leno. On retient qu'il y a une urgence de régler aussi les comptes avec la bibliothèque coloniale, parce que la fiction, j'aime bien cette expression que je vais garder jalousement, la fiction des Afriques rend le continent habité et habitable, et qu'il faut aussi que nous repensions notre manière de critiquer, de faire de la critique littéraire sur l'Afrique, et que cette critique ne puisse pas être la gibecière, en quelque sorte, des préjugés. Peut-être aussi votre idée d'une Afrique, d'une littérature qui rendrait l'Afrique habitable, et la même idée qui pourrait traverser le propos de Séverine Kodjo-Granvaux, puisque nous verrons qu'elle va nous parler tout à l'heure du monde, de l'Afrique, comment on peut regarder le monde à travers l'Afrique, et peut-être même l'Afrique à travers le monde. Mais il faudrait que je dise que Séverine Kodjo-Granvaux, comme Souleymane Bachir Ndiaye, est philosophe, rédactrice en chef adjointe à Jeune Afrique. Elle s'occupe notamment des pages culturelles, où elle héberge périodiquement ma petite chronique sur les livres lus et approuvés. Elle est l'auteur de « Philosophie africaine » au pluriel, paru chez Présence africaine en 2013, récompensé par le prix Louis Marin de l'Académie des sciences d'outre-mer. Et cet essai revient sur les thématiques et les enjeux qui mobilisent les philosophes africains contemporains, aussi bien dans l'ère francophone que dans l'ère anglophone. C'est une invitation à comprendre que la philosophie n'est pas enfermement dans la culture ou la langue, pour reprendre un peu ce que nous a dit Souleymane tout à l'heure, mais une rencontre et traduction. Séverine Kodjo-Granvaux a également co-dirigé avec Geneviève Koubi l'ouvrage intitulé « Droit et colonisation » paru en 2005 aux éditions Bruylant. Son intervention de ce jour s'intitule « Effet de miroir, penser l'Afrique, penser le monde ». Séverine Kodjo-Granvaux, merci. Merci.